Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Pop en Stock, l'épisode 70. Aujourd'hui, on va parler de Miley Cyrus, cette chanteuse très controversée. Pop en Stock est un podcast unique dans le monde francophone, se déclinant sous la forme de revues web, podcasts et collections d'essais. Toutes les semaines, au podcast, nous plongeons dans un phénomène de la culture populaire pour l'analyser et comprendre comment il affecte nos vies quotidiennes. Donc, Miley Cyrus cette semaine. Née Destiny Hope Cyrus le 23 novembre 1992, elle grandit dans un ranch en banlieue de Nashville, Tennessee. Ses parents la surnomment Smiley car elle sourit beaucoup, puis tout simplement Miley. Elle a d'ailleurs changé de nom officiellement en 2008 pour Miley Ray Cyrus. Elle est tout d'abord connue pour son rôle de Hannah Montana / Miley Stewart dans la série et le film Hannah Montana. Elle projette une image de teen star, saine, entière, agréable, normale. Et vers la fin des années 2000, début années 2010, les scandales commencent. En 2008, à 15 ans, elle pose semi-nue pour le Vanity Fair, alors qu'elle est photographiée par Annie Leibovitz. En 2012, elle coupe ses longs cheveux bruns en faveur d'une coupe courte et blonde platine. On commence à soupçonner que c'est le cas de la teen star qui vire folle, qui ne sait pas comment vraiment grandir. En 2013, au MTV Video Music Awards, elle se frotte les foufounes sur Robin Thicke. Elle tente de twerker et utilise des afro-américaines comme accessoire. Le Internet devient fou. Et en même temps, elle sort un clip sur la chanson Wrecking Ball, où on la voit tout nue et en train de licher une massue. Mais en 2015, donc récemment, elle fonde une fondation qui s'appelle Happy Hippie, une fondation justement qui vient en aide à la jeunesse LGBT. En même temps, elle révèle qu'elle ne s'identifie ni au genre féminin ni au genre masculin, qu'elle a eu des relations hétérosexuelles, mais aussi des relations homosexuelles, et que ses partenaires n'ont pas à s'identifier à aucun genre non plus. Récemment, tout récemment, en fait, en même temps qu'une controverse avec la rappeuse Nicki Minaj, Miley Cyrus sort son dernier album, Miley Cyrus and Her Dead Pets, en collaboration avec The Flaming Lips, un groupe de rock psychédélique. Miley Cyrus n'a que 22 ans. On va écouter une première chanson tout de suite et on revient avec Kim Van Renault. Renault Van, plutôt. Désolée.
C'est ça, c'est pas grave.
Désolée.
In the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We
y'all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with my lead. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Donc, on va écouter Kim Renouven qui, à propos du féminisme de Miley.
Oui, tout à fait. En fait, il va être question du féminisme, mais plus précisément de celui de Miley, donc d'une personnalité publique, donc une femme blanche dans un monde occidental. Il va être vraiment difficile pour moi d'élaborer sur le féminisme au sens vraiment très large et intersectionnel, étant donné, bon, mon bagage, mon manque d'outils à ce sujet aussi, et... le fait que j'ai pas assez défriché le tout pour en parler de manière exhaustive.
Oui, disons que c'est un gros sujet, là.
Ouais, c'est ça. Mais je vais soulever le tout. En fait, il y a eu dernièrement des reproches de la part de Nicki sur...
Nicki Minaj, donc?
Oui, mm-hmm. Nicki Minaj, oui. C'est comme mon ami Nicki, on va dire. À propos de Miley, la question de la réappropriation culturelle et de son féminisme blanc qui tient peu compte, en fait, de la culture afro-américaine. Donc, on pourrait vraiment élaborer davantage, comme je disais, mais je vais précisément plus m'orienter sur le féminisme de Miley, plutôt de ce qui semble pas la constituer, en fait. Mais évidemment, bon, l'un n'empêche pas l'autre, là, mais ça va permettre aussi de limiter un peu le féminisme de Miley sur certains sujets. Bon, lorsqu'on évoque le nom de Miley Cyrus, les premières choses qu'on peut lire à son sujet, c'est, bon, qu'elle a des mœurs légères, la critique déverse son venin sur elle puisqu'elle est constamment nue ou à peu près, et qu'elle mime des gestes, bon, à caractère sexuel.
Mm-hmm. Déjà, la danse twerking
ouais, c'est ça.
Évoque... on est à la radio, c'est un peu difficile, mais c'est vraiment question de mettre son derrière
en valeur
et le shaker.
Oui, c'est ça. Donc, elle est très consciente de ces reproches-là, mm-hmm. elle est pas dupe. Puis, elle va, par exemple, soulever une réflexion au sujet de sa nudité en faisant une critique assez rapide sur la vidéo de Taylor Swift, Bad Blood, elle questionne la violence-vengeance dans cette vidéo-là. Elle va soulever le fait qu'on considère Miley comme un mauvais modèle parce qu'elle montre ses seins, alors que Taylor serait mm-hmm, un bon mm-hmm, modèle. Mm-hmm. Donc, elle va vraiment questionner le fait que pourquoi ses seins sont mauvais par rapport... ou c'est pire que les armes à feu, en fait.
Oui, oui.
Donc, elle va vraiment soulever le questionnement par rapport au puritanisme ambiant.
Oui, oui.
Ceci va donc m'amener un peu la notion de pop-féminisme. Bon, ce mot-là est d'abord ambigu par rapport à sa filiation avec les deux termes, qui convoque à la fois le populaire et le féministe. Mm-hmm. Réunir le populaire... le mainstream ou le corps, par exemple, est très souvent érotisé, le corps de la femme, en fait, est très souvent érotisé, présenté comme vendeur au sein de la société patriarcale avec le féminisme, va certes, bon, on le sait très bien, provoquer un profond malaise au sein de la population ils vont lancer vraiment des critiques acerbes envers Miley. Ils vont faire, en fait, du gros slut-shaming, si je peux dire.
Oui, oui.
Donc, Évidemment, pour donner une définition simple du féminisme, ça va être vraiment trop difficile pour moi en ce moment, là. Mais celui que Miley se réclame, c'est en fait, elle repose sur le fait de faire ce que l'on veut de son propre corps. Dans la foulée de cette phrase, bon, c'est sûr, elle peut sembler simpliste pour plusieurs, mais ça laisse place à une possibilité infinie, certes, d'interprétation et de choix de vie. Donc, déjà, ça met en place une position de la part de Miley. Ce pop féminisme-là, à mon avis, peut se rapprocher un peu de mon sujet de mémoire sur la chick lit, terme qui fait son apparition en 95 et plus largement avec la chick culture qui va regrouper toutes les formes culturelles et médiatiques majoritairement américaines et britanniques qui se destinent principalement aux femmes blanches de classe moyenne, entre autres entre la vingtaine et la trentaine. La chick lit va renfermer donc les chick flicks, donc les chick movies.
Les films.
Oui, ouais, la chick lit, donc la littérature
faite pour femmes,
ouais,
soit
disant.
Oui.
La chick TV, on va penser à Sex and the City et autres. Oui, là. Oui. Mais il y a aussi d'autres manifestations de culture populaire qui peuvent s'insérer dans ce regroupement-là, donc les magazines, les blogs et la musique. Donc, à partir de ce moment-là, la chick culture est souvent utilisée par rapport au post-féministe, que là, je vais faire une définition. Le post-féminisme, c'est le fruit d'un mariage, entre autres, entre le post-modernisme et le féminisme. Et il y aurait comme élément commun, c'est de mettre de l'avant une ère de l'ambivalence.
Et de liberté, en tout cas.
C'est ça, oui. C'est vraiment de mettre en opposition le féminisme et la féminité, qui est perçu bien souvent comme quelque chose d'antiféministe. Donc là, la chick culture va privilégier un modèle émancipatoire de la liberté sexuelle, de l'autonomie financière, mais va aussi entrer en collision avec des valeurs, selon la critique féministe, conservatrice, traditionnelle, où règne une certaine persistance hétéronormative, telles que les idéaux traditionnels de la féminité. À ce niveau, les critiques négatives qui vont contre Miley vont la traiter du fait qu'elle veut utiliser seulement son corps pour l'argent, qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait, qu'elle participe à l'idéologie dominante hétéronormée. Bon, OK, peut-être, mais je crois que l'interprétation peut aller un peu plus loin, puis que ça a quand même ses limites. On peut voir que certains éléments vont surgir, puis ils vont un peu brouiller les cartes.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Ça, c'est ma position, en fait, là. Je crois qu'il y a certaines formes d'agentivité qui se met en place à travers son auto-objectivation sexuelle. Je me suis basée sur un texte que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle « Image du désir des femmes, agentivité sexuelle par la subversion de la norme érotique ou pornographique objectivante ». C'est un long titre, je vais élaborer un peu
qui
plus.
Qui a écrit ce texte-là?
Julie Lavigne, Audrey Lorrain et Sabrina.
Ah,
mais je ne veux pas me tromper.
Parce que je connais Audrey Lorrain, c'est pour ça.
OK, tant mieux. Méo Rano, mais je pourrais me tromper un peu dans la façon que je l'ai dit, là, mais ce texte-là parle principalement de l'art des femmes, de la sexualisation dans l'art visuel des femmes. Ils vont émettre une hypothèse qui, à mon avis, va dans le sens où je le sujet Miley. Je vais citer un peu, en fait, l'hypothèse qui dit « Pourrait-on envisager l'auto-objectivation sexuelle comme une posture politique de lutte pour la reconnaissance d'une agentivité sexuelle? » Agentivité sexuelle, en fait, se définit entre autres par la capacité de prendre en charge son corps et sa sexualité. Bon, au risque de faire du gros name-dropping convenu, là, Judith Butler en 2006...
C'est correct, on est à Pop en stock.
je le dis. va suggérer le fait qu'on peut... on a le droit et on peut repenser les possibilités subversives de la sexualité et de l'identité en fonction du pouvoir lui-même pour mieux le déstabiliser. Alors qu'on sait que Miley se dit clairement, officiellement, féministe, je pense que cette revendication pour elle passe par l'incarnation de la norme pornographique, commerciale et hétérosexuelle, une norme qui, on le sait, est loin de constituer un espace où s'affirme la gentilité sexuelle des femmes. Toutefois, je sais que, selon les auteurs du texte que j'ai nommé précédemment, ces stratégies-là, agentiques chez les femmes, vont se manifester pas tout le temps de façon spectaculaire, vont pas être écrits sur leur front, en fait. Mm-hmm. Ça peut se manifester de façon subtile ou parfois ambiguë, vont en fait semer la réflexion.
Si je peux t'interrompre, Miley Cyrus, la manière dont elle fait ça, puis j'ai un petit exemple. Elle a eu un projet avec le Interview Magazine. En fait, c'est le Interview Magazine qui a eu un projet, puis le photographe Mert Alas a décidé de prendre des stars en photo, mais par le biais de FaceTime. Donc, okay, ouais. Oui, c'est ça. Puis, dans le cadre de ce FaceTime-là, Miley se déshabille, on voit ses mamelons. Elle se masturbe, elle lèche le plancher, etc. Donc,
mais c'est ça, okay, dans
cette... Donc, on voit vraiment une espèce de... auto-mise en scène du corps.
À travers le...
lentille pornographique.
Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, en fait, je vais vous montrer un autre exemple. Sur la couverture de son dernier album, Miley Cyrus and Her Dead Pets, coproduit avec The Flaming Lips, va présenter le visage de Miley avec recouvert d'un coulis brillant, rose, bonbon, bleu. Et il va évoquer clairement la pornographie mainstream et le fameux come shot. Là,
oui, bon. Oui.
Par ailleurs, il y a d'autres images un peu plus précises pour qui évoquent encore ça. Là.
Oui.
Il y en a plusieurs. Puis j'ai fait des recherches par rapport à ça. J'ai pu constater que cette image-là faisait écho aux photographies de Marilyn Minter, j'espère que je le dis bien, là, de 2007, de Pamela Anderson.
Ah!
Où on voit... principalement le visage de Pamela, mouillé, entouré de bulles de savon et recouvert de brillants.
Okay.
Tout comme les images de Pamela, Miley ne regarde pas l'objectif, même si elle lui fait face. Elle semble plus concentrée sur son plaisir personnel, elle a les yeux fermés, donc elle ne veut pas plaire, en fait, je mets ça en guillemets, parce que bon, il y a une ambiguïté que je vais élaborer plus tard, là. Mais elle ferme les yeux, donc plus concentrée sur son plaisir à elle.
Mm-hmm.
Mais ça peut aussi rappeler le plaisir voyeur et l'objectivation sexuelle. Donc, il y a vraiment une ambiguïté entre le désir de la femme et celui de l'homme. Puis, pour moi, la question ici, c'est vraiment ce déplacement critique de l'image porno à travers la subversion puis le fait de provoquer. Parce que, bon, ailleurs, dans tous les discours qu'on va rencontrer ou qu'on va voir, en fait, la pochette de Miley, l'image est assez frappante. Ça fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Fait qu'il y a vraiment...
oui, ben, juste à cause... Du gros plan exclusivement sur sa figure, c'est déjà, ça. C'est un peu
déstabilisant. Il y a un questionnement pornographique là-dessus. Mm-hmm. Puis, d'ailleurs, la photographe Marilyn Minter soutient Miley, ce que j'ai pu comprendre dans mes recherches, parce qu'elle dit que Miley, elle est une jeune personnalité publique populaire et non une artiste visuelle elle est critiquée parce qu'elle est une jeune... En fait, je vais reprendre ma phrase. Elle est critiquée parce qu'elle est jeune. Elle est une jeune personnalité publique et populaire et non une artiste visuelle. Mais je fais ça en guillemets parce que, ouais.
Il manque comme une espèce de vernis officiel.
Ben, c'est ça. Puis, c'est pour ça qu'elle est critiquée, contrairement, par exemple, Louise Bourgeois, qui est une artiste qui, en 82, avait posé, elle était plus âgée, avait posé en 82 avec un gros dildo, puis là, on l'a trouvé cute, parce que c'était une artiste, puis elle était plus âgée, mais ben ça,
oui,
c'est
mais
cute.
Oui, mais ça se tue devant le Musée des Beaux-Arts du Canada.
C'est ça.
À Ottawa.
Ben, c'est ça. Puis, donc, pour moi, bon, ici, il y a une certaine ambiguïté qui entoure cette représentation que Miley fait d'elle. Mais parmi les gestes féministes que pose Miley, au même titre que l'a fait Madonna, en fait, Miley va poser nue ou presque en conservant sa pilosité. Ça a fait un tollé, en fait. On la voit, les aisselles poilues, ce qui permet un peu de remettre en question les canons de beauté érotique.
Oui, tout à fait, oui.
Elle va même jusqu'à se teindre les aisselles avec du rose, ce qui va provoquer vraiment des réactions négatives de toutes parts. Là. Nombreuses personnes, quand j'ai lu les commentaires, disaient bon, qu'elle était sale, dégueulasse... qu'elle était une femme des cavernes.
Qu'est-ce qu'on entend d'habitude.
C'est ça. Puis ça promenait non seulement des hommes, mais aussi des femmes. Donc, il y a vraiment...
Aussi
la population assez grande. Mais à mon avis, un des objectifs, peut-être pas le seul, là, premier de la chanteuse, c'est pas de nous mettre mal à l'aise, de créer une zone d'inconfort à coup de provocation, de nudité, d'étalage de sa sexualité. Puis c'est ça qui me questionne, vous faites, qu'est-ce qui choque, en fait, alors que plein de personnes consomment la pornographie mainstream? Fait qu'il y a vraiment ici un questionnement. Puis je crois que le féminisme de Miley prend de plus en plus son ampleur à travers son orientation sexuelle, ou on pourrait dire plus précisément son omnisexualité.
Oui,
parce que, comme tu l'as dit plus tôt, elle s'affirme pansexuelle. Puis je vais paraphraser, en fait, ce qu'elle dit. « Je ne me sens ni garçon ni fille. J'ai pas besoin d'être avec quelqu'un qui se revendique garçon ou fille, comme tu l'as dit. » Elle l'a déclaré dans le « L » au mois d'août. Elle se sent « gender fluid », qu'elle n'appartient à aucun genre défini. Donc, vraiment, elle veut se libérer du genre qui module l'idéologie dominante hétéronormative.
Oui, tout à fait, oui.
Et donc, de se défaire de cette construction sociale culturelle. Elle s'est affiliée, comme tu l'as dit, à la communauté trans et queer en lançant sa fondation. Puis c'est à cause de sa notoriété qu'elle peut servir cette cause-là plus largement. Puis, en mon sens, le féministe, alors que, bon, elle se met nue, ça peut être ambivalent pour... l'analyser de cette façon-là, son féminisme, mais ce qui semble plus majeur ou plus plus concret, c'est la question par rapport à l'identité de genre qui est pour elle son féministe, que je pourrais dire.
OK, parfait.
Fait que c'est, ça pourrait éclore là-dessus.
Super. Et là, Stéphanie, en fait, je ne vous ai pas présenté tous les trois, mais on a ici ben, Kim Renauven qui vient de parler, qui est étudiante à la maîtrise en littérature à l'UQAM. Nous avons aussi Stéphanie Roussel qui est étudiante en littérature à l'UQAM. Et finalement, Marie-Pierre Sans-Regret qui a interrompu, si on peut dire, mais de, tout à l'heure. non, mais c'est parfait. Qui est, elle aussi, étudiante en littérature à l'UQAM. Donc, le département de littérature de l'UQAM est très bien représenté ce soir. Et Stéphanie, donc, tu veux nous parler, de, en fait, des origines un peu de Miley Cyrus et peut-être, peut-être qu'elle a eu des idées pour son féminisme, c'est-à-dire les négociations entre la fiction et la réalité.
Oui, je ne veux pas vraiment parler nécessairement des origines. C'est sûr que je vais partir de ces origines pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, en fait, pour essayer d'amener des pistes de réflexion à pourquoi aujourd'hui sa nudité choque autant.
OK, oui.
Donc, je propose d'analyser la renégociation de la frontière entre réalité et fiction, ou pour prendre l'expression de Richard Saint-Gelais, la contamination ontologique entre Miley Cyrus et ses représentations fictionnelles, plus particulièrement celle d'Anna Montana. Comment des éléments qui sont à la base réels se retrouvent dans une fiction, ou comment des éléments qui étaient à la base fictifs se révèlent finalement réels. Je veux voir, en fait, comment, à travers ça, Miley est devenue un texte sur lequel vient se greffer une multitude de discours. On peut considérer qu'elle est passée d'un statut d'idole à un statut d'icône. Je vais définir les deux termes plus tard. Puis comment ça vient ébranler les idéaux américains, en fait, en la sortant de sa binarité initiale pour l'emmener vers quelque chose de plus multiple, dont son statut de gender fluide corrobore. Donc, Anna Montana est le personnage qui a véritablement fait connaître Miley Cyrus. Elle avait auparavant eu de petits rôles, dont un dans Doctor Who avec son père, mais rien d'aussi flamboyant. Cette série télé de 4 saisons, mais dont aussi découlé des films, des CD, des spectacles, diffusée par Disney de 2006 à 2011, met en scène la double vie d'une star de la pop qui cacherait sa véritable identité au public. Avant toute chose, je veux vraiment mentionner que Miley a initialement auditionné pour le rôle de la meilleure amie. On n'a pas conçu le personnage pour elle, mais en la choisissant comme actrice, les producteurs ont décidé de tout revoir la série et d'y réinjecter des éléments non fictionnels. Donc le personnage qui s'appelait initialement Chloe Stewart est devenu Miley Stewart, née comme l'actrice le 23 novembre 1992 au Tennessee. Billy Ray Cyrus prend le rôle du père, aussi chanteur de country.
Oui, yeah. D'ailleurs, dans la série, si je peux me permettre d'interrompre encore.
Bien sûr!
Dans la série, Billy Ray chante ses propres chansons, puis fait référence à son propre passé de chanteur.
D'accord. Mais je pense que Miley Cyrus a eu le rôle parce qu'elle pouvait chanter, c'est elle qui...
Oui, c'est ça, au
ça
fond,
l'a aidé, là.
Elle voulait auditionner pour le rôle de la meilleure amie, mais comme elle chantait bien, puis elle jouait bien, ils lui ont dit non, mais repasse les auditions, s'il te plaît, pour le rôle principal. Puis là, au début, elle n'était pas trop sûre parce qu'elle n'avait pas le corps qui convenait au rôle. Elle était trop mince, trop petite. Ouais. Puis c'est ça, d'autres éléments, sa marraine, Dolly Parton, joue sa tante. Fait que la série... d'un même souffle, vient cristalliser une image de la chanteuse, par exemple en lui faisant adopter son surnom Miley publiquement, puis en l'associant, en la mettant en scène avec des membres de sa famille, on l'associe aussi à l'aura puritaine qu'elle dégage.
Oui, tout à fait.
Je veux juste faire une petite parenthèse parce que je m'attarderai pas à d'autres fictions dans lesquelles Miley a joué. Mais je voudrais quand même souligner que cette imbrication-là entre la réalité et la fiction revient. C'est pas seulement dans Anna Montana, puis c'est pas nécessairement calculé par le marketing. Durant The Last Song, une adaptation d'un texte de Nicholas Sparks qui avait comme but avoué d'offrir une image plus mature de Miley au public, elle tombe amoureuse de l'acteur Liam Hemsworth, avec lequel elle entretenait dans le film une relation amoureuse.
Oui, oui.
Disney, pour revenir sur Anna Montana, Disney rejoue et problématise à l'intérieur d'une fiction le phénomène des deux corps du roi, analysé par Katorovich, j'espère bien prononcer son nom, que reprend Nathalie Hanisch dans De la visibilité pour comprendre la dynamique entre personne, personnage et célébrité. L'acteur de cinéma aurait le corps réel de sa personne, à l'égal de n'importe quel humain, évidemment, et le corps imaginaire des personnages de fiction qu'il incarne, puis éventuellement le corps symbolique de la star.
La série Hannah Montana tend cependant à effacer le concept d'actrice. La série récupère des éléments de l'identité de Miley et utilise la distinction qu'on pourrait avoir entre l'actrice et son personnage comme moteur narratif grâce au duo Miley-Hannah.
Mm-hmm.
Ce qui a pour effet de court-circuiter la distinction qu'on fait normalement entre une personne réelle et les personnages qu'elles vont incarner en faisant un enjeu de la fiction. Disney ébranle ainsi la frontière entre la réalité et la fiction et construit une star parfaite dont l'image serait contrôlée de A à Z en donnant son corps pour à la fois fictif et réel. La série revêt bref des allures d'un reality show où l'on a l'impression de voir grandir la superstar et de connaître sa véritable identité, ses vraies valeurs et aspirations. C'est flagrant quand on voit sur les réseaux sociaux que beaucoup reprochent encore aujourd'hui à Miley de ne plus être Hannah Montana, comme si elle n'avait pas incarné un personnage en tant qu'actrice, mais qu'elle avait été partie prenante de son identité,
tout à fait.
Qu'elle avait déjà été Hannah Montana. Hannah Montana travaille de cette façon par un va-et-vient entre la personne, monde réel, et le personnage, monde imaginaire, à forger une représentation de Miley Cyrus devant le public. Disney a voulu construire une idole dont toutes les caractéristiques répondraient à l'idéologie dominante. D'un côté, elle est Miley, élève moyenne, fille d'un chanteur populaire de country. De l'autre, elle est la célèbre Hannah Montana. La série fonctionne sous le principe d'un déguisement de super-héros. Lorsqu'elle enfile sa perruque blonde et qu'elle se couvre de maquillage, elle devient méconnaissable. Dans la chanson « Who Said », écrite dans le cadre de la série, elle chante justement « Je suis pas une fille normale. Qui sait si je ne serais pas super, si que je ne pourrais pas être Superman. »
Ok.
Elle dit qu'elle peut être tout ce qu'elle veut être, du moins. C'est là qu'on peut... Ça, c'est mon interprétation, c'est pas ce qu'elle dit. Du moins, tant qu'elle continue d'incarner un idéal américain, à la fois de beauté et de succès, mais aussi qui répondrait en même temps à des valeurs puritaines. Si Hannah Montana est prête à se battre dans le film Hannah Montana The Movie pour une paire de souliers, Miley vient d'une famille conservatrice. Elle est à la fois une star qui a réussi le rêve américain, mais aussi une fille simple et croyante. Elle est à la fois belle, blonde, mince... Mm-hmm. Répond parfaitement aux standards de la féminité, mais vient quand même d'un milieu rustre, rural. Son père est une emblème de la culture musicale américaine. Donc, elle représente vraiment tout ce que l'Américain veut qu'elle représente. Elle est hétérosexuelle dans ses représentations. Elle est pas vulgaire. Miley, à cette époque-là, portait une bague de virginité.
Oui.
A réussi à charmer toute l'Amérique, à devenir riche par ce travail-là, à la fois entre... Ce canon et un travail d'authenticité.
Oui, il y avait... il y a le saut Disney aussi, qui est très important aussi.
Puis quand je dis un travail d'authenticité, c'est un faux travail d'authenticité. Ouais, finalement, on l'a construit.
Un travail de fausse authenticité. C'est parce ça. Que le travail est vrai, c'est juste l'authenticité qui était ambivalente, on va dire ça, ambigu.
Cette complémentarité nécessaire entre deux pôles atteint son paroxysme dans Hannah Montana, The Movie, qui commence d'ailleurs avec la chanson « Best of Both Worlds ». Elle retourne dans son village contre son gré parce que son père trouve que sa popularité l'a éloignée de ses valeurs traditionnelles. Lors d'un spectacle pour sauver le village, voulant regagner l'amour d'un beau fermier, elle avoue son secret sur scène. Elle abandonne le rôle de la pop star et chante The Climb, qui émeut son public, tout le monde pleure. Le village entier lui demande toutefois de continuer à être Hannah Montana pour ne pas briser le rêve qu'elle représente.
Ah oui. Carrément, ok.
Donc, elle veut redevenir authentique, mais on lui dit que non, elle peut pas, qu'elle doit se cacher elle-même pour sauver Hannah Montana, cacher son corps ordinaire, non maquillé, sans toutefois quand même perdre ses valeurs qu'elle venait retrouver à la campagne. La morale un peu du film, c'est que l'Amérique a besoin de ses idoles, a besoin d'idéaux prédéfinis. Puis pour illustrer ce point, on peut se référer à la valeur monétaire qu'aurait eu une photo de son premier baiser. Quand elle avait 15 ans, si un paparazzi réussissait à capter ce beau moment, la photo valait entre 30 000 et 150 000 $. Un paparazzi explique ce prix, Frank Griffin, explique ce prix en disant que la jeune adolescente représentait alors la réussite et que les gens aiment mieux assister au succès plutôt qu'à la déchéance.
Ça me fait déjà penser, je reviens encore sur mon mémoire, mais en fait, je parle de la chick-lit comme un phénomène, un best-seller. Là, c'est sûr que c'est plus dans une orientation littéraire, mais ce que j'ai constaté, c'est que le scénario littéraire dans la chick-lit, c'est le mythe de l'idéologie de la réussite dans une société capitaliste et qui est vendeur. Et à la fin, toute fin, si c'est pas le mariage comme le roman Harlequin, ça va être... la promesse de d'un couple uni. Mm-hmm, puis mm-hmm. Bon, pour là, en ce moment, ce que tu dis par rapport à Miley, c'est le baiser, c'est la réunion du couple hétérosexuel. Oui, donc vraiment, ça fait écho à ça.
Et le fait qu'on, qu'on demande aussi tout le temps, en fait, qu'on a demandé à la fin du film Hannah Montana à Hannah Montana de rester Hannah Montana, puis elle voulait redevenir Miley Stewart. Ouais. Mais moi, ça me fait vraiment penser à tous les discours culpabilisants autour de Miley Cyrus. On lui demande tout le temps, mais arrête de faire ça. Comme, pourquoi tu te work? Pourquoi? Il y a beaucoup de discours prescriptifs autour de la star Miley Cyrus.
Oui, puis dans le film, il y avait un paparazzi tout le long du film qui la poursuit pour finalement savoir c'est qui la vraie identité, c'est qui incarne Hannah Montana, c'est qui la vraie personne derrière ça. Puis là, il se ramasse dans la boîte, il fait tout pour connaître la.
Ça doit être cocasse.
Cette personne-là. Ah, oh, c'est magnifique, là. Donc, il fait tout pour avoir ce scoop-là. Mais à la fin, il abandonne, il lâche son emploi parce qu'il voit ses deux filles pleurer de joie à l'idée de voir Hannah Montana, puis il se fait dire, mais si tu révèles ça, tu vas gâcher le rêve de tes enfants.
Ouais.
Donc, puis c'est dans les larmes, comme, si elle arrêtait d'être Hannah Montana, tous les enfants souffriraient.
OK.
Donc, mais il arrive quand même ce moment où Miley Cyrus, dans la réalité, elle refuse d'être Hannah Montana, puis elle veut prendre en charge son corps et l'expression de celui-ci. Et pour moi, ce moment-là, selon moi, ce moment-là est pour la société américaine probablement plus grave que Britney Spears se rasant les cheveux, le visage bouffi, la voix incohérente. Parce que Miley a décidé de faire exploser les limites de sa représentation, de sortir de sa binarité. Par exemple, dans son troisième album, Can't Be Tame, dont le public avait reproché la vulgarité parce qu'évidemment, on est un meilleur modèle quand on est blond et maquillé que quand on montre un peu de peau. Miley Cyrus opère une première réappropriation de son corps. Le clip de la chanson éponyme présente Miley en cage.
Ça, c'est vers 2009, ça? Est-ce que c'est le même album que Party in the USA? C'est comme c'est la...
Je ne pense pas.
Non, okay. Non, c'est l'album Can't Be Tame, tandis que me semble que Party in the USA, c'est dans... Le suivant.
OK, parfait.
j'ai un blanc.
C'est correct, ça arrive.
Mais non, c'est peut-être dans le précédent. En tout cas, je sais que Can't Be Tame, c'est son...
Est-ce que c'est 2007? C'est ça, j'essaie de...
Troisième album.
De penser aux années.
C'est son troisième album à titre personnel.
Solo, OK.
De façon indépendante, pas par rapport à Hannah Montana. Fait que je le replace pas vraiment par rapport aux autres, là. Puis je sais que c'est vraiment là qu'elle a décidé de faire une... Ben, pas de faire une coupe réelle, parce qu'elle va la faire vraiment quand elle va se couper les cheveux.
Oui.
Mais qu'elle montre une autre image, en fait, qu'elle montre plus l'image de la petite fille parfaite qu'elle était. Donc, dans le clip de la chanson, justement, la chanson qui fait scandale, présente Miley en cage, offerte comme une bête de cirque au regard. Elle chante alors son désir de liberté et affirme qu'on ne peut la changer ou l'apprivoiser, comme le titre le dit. Le single « Who Owns My Heart » lui permet quant à lui de récupérer à son compte l'imbrication entre la réalité et la fiction que Disney avait travaillée. Parce qu'elle veut pas nécessairement s'éloigner de ce travail-là qu'elle avait fait auparavant, que de se le réapproprier pour emmener quelque chose d'autre dedans, pour le pousser plus loin. Donc, dans la chanson « Who Owns My Heart », elle se demande si ses sentiments sont réels ou s'ils sont que le résultat ou le fantasme musical. Associant ces deux paradigmes, alors on va imbriquer ces deux paradigmes-là jusqu'au vers « We are living art », où on s'affirme comme de l'art vivant. Miley Cyrus a été construite à travers les fictions qu'elle a incarnées comme une idole dont chaque parcelle de corps était contrôlée. Selon une entrevue dans le Rolling Stone, elle n'a pas décidé de son allure, de ses vêtements, de sa coiffure jusqu'à l'âge de 16 ans.
OK.
C'est
vieux, là.
Elle a ensuite, par contre, voulu rompre justement avec Hannah Montana en resémiotisant son image, en y injectant d'autres discours. Si elle reprend la blondeur d'Hannah Montana, elle va quand même se couper les cheveux à la garçonne.
Oui.
Je crois que pour analyser ce passage entre, si on veut, deux états, Miley Cyrus, mais aussi en deux moments dans son art, la distinction de Jean-Yves Leloup dans un art de l'attention entre l'idole et l'icône est vraiment éclairante. Pour lui, l'idole arrête le regard, alors que l'icône est une présence qui l'élargit. Si on veut, face à une idole, on va être ébloui, on va se dire que c'est un idéal qu'on n'atteindra jamais, mais l'idéal à atteindre. Mm-hmm. Tandis que une icône va nous inspirer, on va vouloir à partir de lui être autre chose, créer autre chose, on va pas s'arrêter à lui.
OK. Ben d'ailleurs, par rapport à ça, dans le DVD de la tournée Bangers de Miley Cyrus, elle parle justement du fait qu'il y a beaucoup d'admirateurs qui lui ont écrit pour lui dire tes chansons, tu m'as inspiré, tu m'as sauvé la vie, ça m'a sauvé la vie, écouter ta musique puis te voir aller. Donc c'est vrai que de cette manière-là, c'est vrai que
on voit vraiment que les gens vont se réapproprier son image pour l'emmener ailleurs, pour réfléchir sur eux-mêmes, pour traduire mm-hmm. des discours. C'est le corps d'Anna Montana, elle reproduisait les stéréotypes d'un idéal féminin. Le corps de Miley Cyrus aujourd'hui questionne certains tabous, cherche à l'affranchir des dingues. Puis en ce sens-là, c'est vraiment, tu sais, je dis pas que elle est gender fluid parce que ça, mais qu'elle soit gender fluid et pansexuelle rajoute à ce phénomène-là parce qu'il l'éloigne de la binarité, il permet d'imbriquer dans son corps une multitude de discours qui va pas se restreindre à des catégories de genre. Il permet à tout le monde de pouvoir se reconnaître dans ce corps-là. Mm-hmm. Donc, elle s'offre comme lieu de médiation de discours marginaux. En 2014, lorsqu'elle a remporté le prix du clip de l'année aux VMAs, elle a laissé un itinérant prononcer son discours. À la fondation du Happy Hippie Foundation, elle a encouragé les LGBTQ à partager leurs témoignages via son compte Instagram, leur offrant alors sa visibilité. Donc, à travers son corps, à travers ses réseaux, il y a la parole des autres aussi qui passe. Il n'y a plus seulement la sienne. Miley Cyrus se réapproprie ainsi son propre corps à travers la nudité, mais aussi une série de collages sur Instagram. On peut toujours la voir, des dauphins sur les seins, elle avec Elvis puis la pizza. Donc, il y a quand même tout un travail sur sa nudité, mis aussi en relation avec d'autres images, une esthétisation de tout ça. Donc, elle resserre la correspondance entre son art et son corps, comme le ferait, en un certain sens, le body art.
OK.
Allant jusqu'à se décrire elle-même comme un work in progress dans le dernier Marie-Claire.
OK.
Elle retourne contre l'idéologie hollywoodienne, les modalités qui avaient constitué sa propre soumission à l'intérieur d'une fiction stéréotypée. Son corps nu choque, selon moi, parce qu'il est le lieu d'une contestation. À chaque fois qu'elle le montre, elle affirme son insoumission à l'idéologie hollywoodienne qu'elle représentait. Puis, je vais finir sur un questionnement aussi, mais j'y réponds un peu dans mon questionnement. Au final, lorsque les journaux à potins disent qu'elle sombre dans l'enfer d'Hollywood, dans l'alcool, le sexe, mm-hmm. la drogue, est-ce qu'on essaie pas de la réduire à un autre archétype hollywoodien, celui de Britney Spears et de Shirley Temple?
Celui de la teen star déchue, là.
Ouais, de la star en perdition, mm-hmm. puis qui représentant la défaite, ne peut pas venir ébranler les valeurs américaines sacro-saintes parce que c'est plus un succès. Mais en même temps, elle rentre quand même en tension avec ces discours-là parce que je sais qu'elle a publié récemment la liste des rappeurs avec qui elle a couché. Donc, on lui dit « Oui, tu sombres dans l'enfer du sexe. Oui, mais pis. »
Oui, oui.
Vous voulez voir à quel point, tu sais, je veux dire, il y a comme tout un travail de là-dessus. Elle va aussi affirmer dans le Marie-Claire que pourquoi je me montrerais pas nue? Anyway, sinon, il y a du monde qui vont pirater mon ordinateur, qui vont se faire de l'argent sur sur ma nudité.
Okay, ouais,
je vais les diffuser rendu là, puis ça sera plus intéressant pour personne.
Donc, avoir un contrôle, oui.
D'avoir un contrôle. Elle a un contrôle sur son corps, finalement.
Mm-hmm. Mais c'est très intéressant avec ce que Kim disait. Mais c'est pas ce contrôle-là, mais cette image-là, quand même, renvoie à quelque chose qui est déjà construit, qui est déjà là.
Oui, mais c'est parce que... Mais c'est justement ça que
c'est ambivalent aussi, là.
Oui, mais je veux passer justement sur le fait que, par exemple, quand on regarde... Tu sais, il y a du monde qui vont regarder de la pornographie, puis qui critiqueront pas leur acte, qui déconstruiront pas leur... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais ils vont voir Miley se montrer elle-même nue, partager sa propre sexualité. Puis comme si plus à l'intérieur d'une fiction, c'est son intimité, là, ça devient quelque chose de grave, chose d'horrible, de choquant, parce que c'est vrai, mais... On oublie un peu, ben justement, c'est ça que j'ai voulu montrer, on oublie un peu quand même que son corps a été remédiatisé.
Oui, tout à fait.
Je veux dire, même si on a l'impression d'assister à un reality show, ben c'est des images, il y a encore de la fiction dans tout ça.
Oui, tout à fait. Par la fiction, on va écouter juste un extrait de la chanson thème de Hannah Montana qui s'appelait Best of Both Worlds, tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est une chanson qui est... ma foi, peut-être c'est la première fois qu'il y a une chanson comme ça qui joue à Pop en Stock. Donc,
il fallait être les premières.
Oh yeah! Come on! but no one ever discovers. In some ways you're just like all your friends, but on stage you're a star. The both worlds.
Oui, alors, on va... Voilà, c'est un extrait parce que c'était pas super bon. On va le dire. On passe avec Marie-Pierre Sans Regret, qui veut nous parler du travail de l'authenticité de Miley Cyrus.
Eh oui, je vais vous parler de ça. OK. Après Stéphanie, qui finit sur la... sur des paroles qui parlant de la réappropriation de son corps par Miley Cyrus... Je vais enchaîner, puis ça... Non, ça va bien s'enchaîner, je pense.
Donc, vas-y, on t'écoute.
Oui, OK. Avec Happy Hippie Foundation, un organisme dont on a parlé à plusieurs reprises à date dans l'émission, là, Miley Cyrus met en pratique sa philosophie du « be yourself ». Puis, elle affirme d'ailleurs que lorsqu'elle s'éteint les poils de sel rose, comme Kim l'a mentionné tout à l'heure, en fait, c'était un geste symbolique par rapport à ces jeunes-là auxquels elle vient en aide. Okay, un geste symbolique qui dit « Je vous demande pas simplement d'être vous alors que moi, je suis Miley Cyrus. Je vous dis d'être vous-même alors que moi, je vais être également moi-même. »
OK.
Comme si elle faisait la distinction un peu entre être Miley Cyrus puis être elle-même.
Tout simplement soi, oui.
Tout simplement soi. Donc, puis, c'est ça qui nous amène à mon idée principale. Dans le fond, Miley Cyrus, en tant qu'auteur, retravaille l'éthos de son personnage pour l'orienter vers un idéal d'authenticité. Alors, Walter Benjamin, dans l'œuvre d'art...
Name dropping! Okay.
Walter Benjamin, dans l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, traite du caractère reproductible des images qui nous éloignent de plus en plus de l'ici et du maintenant de l'original. Nathalie Enich, dans son ouvrage sur la visibilité, écrit que la dimension médiatisée de la reproduction technique creuse un écart fondamental entre le référent et le signe, le modèle et l'image, le réel et la représentation. D'où naît le désir d'être mis en présence de l'original lorsqu'on ne connaît pas la copie. Cette attente engendre un considérable investissement émotionnel. Il n'y aurait pas de reproduction sans recherche de l'original. Miley Cyrus, avec sa philosophie du « be yourself » et du « fuck the haters », donne à ses fans ce dont ils ont besoin pour combler leur quête de l'original, atténuer la faim sociale de découvrir la vraie personne derrière l'image, comme l'écrit Catherine Lumby dans son article « Vanishing Point ». D'abord, elle le fait par le biais de son utilisation des réseaux sociaux. Nathalie Enich écrit que dans le chaînage des étapes d'accès à l'authenticité, l'étape photographie qui sépare de l'original tout en y donnant accès se décompose elle-même selon une subtile gradation ontologique. C'est-à-dire qu'entre la photo d'un périodique, la photo de studio ou la photo prise par un fan, c'est celle du fan qui sera beaucoup plus recherchée parce que ce serait une photo de la vraie Miley qu'on lui aurait dérobée. Mais quoi de plus vrai que les selfies que la star elle-même prend dans son lit avec ses chats, ses chiens et son cochon, en sortant de la douche avec un masque dans le visage, démaquillée, en pyjama, décoiffée, avec sa sœur, avec sa famille pour un repas d'anniversaire. Et que dire aussi des vidéos qu'elle publie d'elle sur Facebook, quand elle invente une petite chanson en allant passer un test de résonance magnétique. Quoi de plus...
spontané.
Oui, c'est ça.
Intime, en fait.
Donc, oui, aussi.
Comme ça, Miley Cyrus revendique de se montrer sous son vrai jour et la meilleure manière est d'utiliser son téléphone et de partager ça avec son public. Cette méthode consiste aussi en une manière de se réapproprier son corps, dévoré par les médias, de travailler sa nudité non comme scandaleuse, mais comme manifestation de son bien-être, et tout ceci a comme effet fait de réduire considérablement la distance entre l'admirateur et son objet d'amour. Par exemple, j'ai regardé les pages de Facebook de Katy Perry, de Taylor Swift, etc. Elles regorgent essentiellement de photos de concerts, de photos lichées.
Léchées.
Oh ouais, je trouve tout. Puis, ouais. Alors que Miley Cyrus utilise la scène pour se mettre à nu, se donner à son public, elle partage même des bribes calligraphiées de ses compositions qui sont pas encore terminées. Aussi, il est important de... Je pense que c'est intéressant de parler de ses fautes d'orthographe.
Oui, oui.
Dans la description de ses photos, elle écrit les mots n'importe comment. Puis ça, ça peut donner accès à une idée de l'authenticité.
Oui, c'est comme si c'était la vraie personne. Ouais, ça peut pas être un gestionnaire de communauté qui
c'est
se cache derrière.
Puis c'est comme quand tu textes avec ton ami, tu sais que c'est pas, bon... destiné à tout le monde, fait que tu peux écrire comme tu veux, mais c'est un peu ce qu'elle semble un peu faire avec une communauté plus grande, en fait.
Puis ça nous donne aussi l'idée d'un vrai corps, là. Quand tu textes avec des amis, tu l'entends presque dans la voix de la personne, parce que quand tu lis un texte, il y a une certaine objectivité, tu prends ta propre voix, mais avec un parler plus... plus populaire, ben là, on commence à s'imaginer la personne nous parler réellement.
Tout à fait,
Il y a aussi l'enregistrement de son nouvel album, Miley Cyrus and Her Dead Pets, qu'elle a coproduit avec le groupe de Flaming Lips, qui participe aussi à l'élaboration de cette étoile d'authenticité. Lors de la soirée des VMAs, en septembre, je pense, on en a parlé, la chanteuse a annoncé la mise en ligne de son nouvel album de... plusieurs chansons, il est vraiment long.
Oui, c'est vrai.
Complètement gratuit sur son site internet. Miley Cyrus explique qu'à ce moment-là, qu'en ce moment, elle est à une phase déterminante de sa carrière où elle peut faire exactement ce qu'elle veut. En se libérant de la pression commerciale liée à la vente d'un album, c'est comme s'il s'agissait d'un pacte d'authenticité, dans le fond, puisqu'elle se permet aucune censure. Par ailleurs, le studio dans lequel elle enregistre cet album-là, c'est annexé à sa maison, c'est tout simple.
Ouais, puis elle insiste sur le fait qu'elle a pas besoin d'un matériel qui vaut vraiment vraiment cher pour produire sa musique. Elle a besoin de cette intimité-là ou de cette pas pureté, mais c'est vraiment cette simplicité-là pour pouvoir penser sa musique. Donc, elle fait pas juste proposer une image authentique, elle dit qu'elle en a besoin pour se réfléchir elle-même.
Oui, d'ailleurs, elle dit dans le Marie-Claire que tout ce qu'elle a besoin, dans le fond, c'est un micro et un ordinateur, rien d'autre. Puis, puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on écoute une chanson qui apparaît sur cet album-là. Ça s'appelle Twinkle Song.
Pas de problème, je pars ça.
Bowie taught us how to skateboard, but he was shaped like Gumby. And I had a dream. We took a helicopter, flew it up too high, got stuck in the clouds, don't wanna come down. And I had a dream. We went on a safari. I said, look at that lion. She reminds me of you, 'cause you're the queen. And I had a dream that you were dying, but I wasn't even crying. I just sang you to sleep, I sang you to sleep. But what does it mean? Does it all mean I had a dream? But what did it mean? What did it mean? And I had a dream. We robbed the record store, the one with the yellow door. We stole every goddamn record they had. And I had a dream that I didn't give a fuck, but I give a fuck. I miss you so bad, I think I might die. But what does it mean? What does it all mean? I had a dream, but what did it mean? What does it mean? Just wanna scream. What does it mean? What does it mean? I just wanna scream. I just wanna scream. I just wanna scream. What does it mean? What does it mean? What does it mean? I had a dream. But what does it mean?
wasn't scared, 'cause you were there. And I had a dream we took.
On baisse tranquillement la chanson, parce que, en fait, je pense que c'est le cri qui t'intéressait.
Oui, ben, c'est ça. Je vais pas parler particulièrement du cri, là, mais je vais faire vite. En fait, comme on sait, l'album de Miley Cyrus parle de ses animaux morts. Puis, chaque fois que Miley perd un animal, elle vit une véritable peine d'amour. Mm-hmm.
Un deuil.
Un deuil très difficile. Puis, cette chanson-là, justement, elle parlait d'un rêve qu'elle a fait la nuit où son chat est mort.
OK.
Puis, elle a joué cette chanson-là à Saturday Night Live. Puis, quand elle criait, justement, elle pleurait en même temps, puis elle avait l'air complètement...
Dévastée.
Ah,
puis on l'entend, on entend ça. Puis
on l'entend même qu'elle est en colère. Moi, je trouve que c'est plus la colère qui...
La colère, puis... la colère, puis les c'est ça, à Saturday Night Live, il y avait les larmes qu'on pensait que ça l'empêcherait de finir sa chanson.
OK.
Puis ça donne, justement, encore une fois, l'impression de se rapprocher d'elle, de son intérieur. Puis finalement, je finirai en disant que Miley Cyrus se mettrait à nu, finalement, de toutes les manières possibles, en montrant cette vulnérabilité-là, en criant, voilà.
Une vulnérabilité qui est quand même une force, là. Faut pas dire que c'est une vulnérabilité au sens où... Je sais que Marie, c'est pas ça qu'elle disait, mais juste pour le spécifier pour le public... Miley Cyrus, sa vulnérabilité, disons, c'est un contrôle de son corps par elle-même.
Mm-hmm. Et moi-même, ça fait vraiment beaucoup penser au lien que Miley Cyrus peut avoir avec la culture country. Déjà qu'elle est née à Nashville, qui est la capitale du country. Son père, c'est Billy Ray Cyrus. Si vous connaissez pas Billy Ray Cyrus, c'est sûr que vous connaissez Achy Breaky Heart, ce hit de 1992. Je pense la même année que Miley est née, justement. En fait, puis oui, qui rockait le mullet. Vraiment. La marée de Miley Cyrus, c'est Dolly Parton, qui est une figure extrêmement déterminante dans la culture country contemporaine, parce que moi, pour la représentation des femmes, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses, Dolly Parton, celle qui a écrit « I will always love you », c'est quand même, faut que je le dise. Et vraiment, ça me semble que à tout le moins, la première partie de sa carrière est vraiment ancrée dans cette espèce de double représentation du country. Je vais m'expliquer, en fait. Les femmes du country étaient, je pensais à Loretta Lynn, Dolly Parton, mais aussi Tammy Wynette, étaient très, très flamboyantes sur scène, souvent des costumes avec plein de zircons, là, puis c'était, ils en mettaient vraiment beaucoup, mais les paroles parlent, les chansons parlent de leur vie de famille, de comment leurs maris doivent aller, genre, à la mine, là, faire des trucs, comme avoir vraiment un travail très terre-à-terre. Donc, il y a vraiment beaucoup, une espèce de il y a beaucoup d'accent sur la famille, puis il y a une espèce de dichotomie qui se crée entre l'espèce de travail de célébrité et l'authenticité qui doit tout le temps se créer et l'espèce d'image authentique. Il y a vraiment une espèce de séparation entre ces deux affaires-là. Donc, chanter, être musicien, être une espèce de musicien méga phénoménal qui remplit des stades, c'est juste un job. Et d'ailleurs aussi, Britney Spears avait repris ce discours-là lorsqu'elle était très, très populaire, en disant oh, « c'est juste un boulot ». Puis elle aussi... Britney Spears, très ancrée dans le monde country. Là. Bon, là, je lance une bouteille à la mer un peu, mais bon. Puis Miley Cyrus, même déjà, juste son nom aussi, son nom fictionnel de la première instance, Hannah Montana, comme le Montana, là, l'État où là aussi, il y a beaucoup de country. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a une espèce qui veut se détacher peut-être des racines country, une redéfinition, qu'il y a une espèce aussi de tous les scandales dans lesquels elle se met, mais en même temps, elle recherche tout le temps le travail d'authenticité. C'est comme si on se rendait compte, c'est comme si le public se rendait compte qu'en fait, il n'y a pas de séparation. C'est une personne bizarre en tout temps. Puis qu'elle doit aussi... et c'est pour ça peut-être qu'elle doit comme vraiment insister sur ce travail d'authenticité en tout temps, parce que bon, on la voit faire des trucs que c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui vit ça, c'est pas tout le monde qui se considère pansexuel, tout ça. Donc, il y a comme une espèce, je pense, de redéfinition qui doit se créer. Et je dois terminer là-dessus et je vais mettre, j'aime beaucoup la voix country de Miley, qui a une excellente voix, et elle a repris une chanson de Dolly Parton, sa marraine, qui s'appelle Jolene, et on va se quitter là-dessus. Donc, merci beaucoup tout le monde, on s'écoute la semaine prochaine, je serai une chroniqueuse la semaine prochaine, je vous dis pas encore le sujet, mais ça va être lié à l'Halloween. Je vous embrasse, au revoir.
Mm-hmm. beauty.